je dois à la forêt une de mes plus grandes émotions littéraires de mon âge adulte. Cela se passe il y a une trentaine d'années, dans une région d'Amérique centrale appelée El Tapón de Darién, le bouchon, parce que c'est là que s'interrompait alors, et je crois savoir que depuis la situation n'a pas changé, la route panaméricaine qui devait relier les deux Amériques, de l'Alaska à la pointe de la Terre de Feu. L'isthme de Panama, dans cette partie, est recouvert d'une forêt de pluie extrêmement dense, dans laquelle il n'est possible de voyager qu'en remontant le cours des fleuves en pirogue. Cette forêt est habitée par une population amérindienne divisée en deux groupes, les Embera et les Waunana, tous deux appartenant à la famille linguistique Ré-Pamé-Caribe. Étant venu là par hasard, je me suis trouvé fasciné par ce peuple au point d'y faire plusieurs séjours assez longs, pendant environ 3 ans. Pendant tout ce temps, je n'ai rien fait d'autre que d'aller à l'aventure, de maison en maison, car ce peuple refusait alors de se grouper en village, et d'apprendre à vivre selon un rythme entièrement différent de ce que j'avais connu jusqu'alors. Comme toutes les vraies forêts, cette forêt était particulièrement hostile. Il fallait faire l'inventaire de tous les dangers et aussi de tous les moyens de survie qu'elle comportait. Je dois dire que, dans l'ensemble, les Embera ont été très patients avec moi. Ma maladresse les faisait rire, et je crois que, dans une certaine mesure, je leur ai rendu en distraction un peu de ce qu'ils m'ont appris en sagesse. Je n'écrivais pas beaucoup. La forêt n'est pas un milieu idéal pour cela. L'humidité détrempe le papier. La chaleur dessèche les crayons à billes. Rien de ce qui marche à l'électricité ne dure très longtemps. J'arrivais là avec la conviction que l'écriture était un privilège et qu'il me resterait toujours pour résister à tous les problèmes de l'existence. Une protection en quelque sorte, une espèce de vitre virtuelle que je pouvais remonter à ma guise pour m'abriter des intempéries. Ayant assimilé le système de communisme primordial que pratiquent les Amérindiens, ainsi que leur profond dégoût pour l'autorité et leur tendance à une anarchie naturelle, je pouvais imaginer que l'art, en tant qu'expression individuelle, ne pouvait avoir cours dans la forêt. D'ailleurs, rien chez ces gens qui pût ressembler à ce que l'on appelle l'art dans notre société de consommation. Au lieu de tableaux, les hommes et les femmes peignent leur corps et répugnent de façon générale à construire rien de durable. Puis, j'ai eu accès au mythe. Lorsqu'on parle de mythe dans notre monde de livres écrits, l'on semble parler de quelque chose de très lointain, soit dans le temps, soit dans l'espace. Je croyais moi aussi à cette distance. Et voilà que les mythes venaient à moi régulièrement, presque chaque nuit, près d'un feu de bois construit sur le foyer à 3 pierres dans les maisons, dans le balai des moustiques et des papillons de nuit. La voix des conteurs et des conteuses mettait en mouvement ces histoires, ces légendes, ces récits, comme s'ils parlaient de la réalité quotidienne. Le conteur chantait d'une voix aiguë, en frappant sa poitrine. Son visage mimait les expressions, les passions, les inquiétudes des personnages. Cela aurait pu être du roman et non du mythe. Mais une nuit est arrivée une jeune femme. Son nom était Elvira. Dans toute la forêt des Embera, Elvira était connue pour son art de conter. C'était une aventurière qui vivait sans homme, sans enfant. On racontait qu'elle était un peu ivrognesse, un peu prostituée, mais je n'en crois rien. Et qui allait de maison en maison pour chanter, moyennant un repas, une bouteille d'alcool, parfois un peu d'argent. Bien que je n'ai eu accès à ces contes que par le biais de la traduction, la langue Embera comprend en effet une version littéraire beaucoup plus complexe que la langue de chaque jour, j'ai tout de suite compris qu'elle était une grande artiste, dans le meilleur sens qu'on puisse donner à ce mot. Le timbre de sa voix, le rythme de ses mains frappant ses lourds colliers de pièces d'argent sur sa poitrine, et par-dessus tout cet air de possession qui illuminait son visage et son regard, cette sorte d'emportement mesuré et cadencé avait un pouvoir sur tous ceux qui étaient présents. À la trame simple des mythes, l'invention du tabac, le couple des jumeaux originels, l'histoire de Dieu et d'humains venus du fond des temps, elle ajoutait sa propre histoire, celle de sa vie errante, ses amours, les trahisons et les souffrances, le bonheur intense de l'amour charnel, l'acide de la jalousie, la peur de vieillir et de mourir. Elle était la poésie en action, le théâtre antique, en même temps que le roman le plus contemporain. Elle était tout cela avec feu, avec violence. Elle inventait dans la noirceur de la forêt, parmi le bruit environnant des insectes et des crapauds, le tourbillon des chauves-souris, elle inventait cette sensation qui n'a pas d'autre nom que la beauté. Comme si elle portait dans son chant la puissance véridique de la nature. Et c'était là sans doute le plus grand paradoxe, que ce lieu isolé, cette forêt, la plus éloignée de la sophistication de la littérature, soit l'endroit où l'art puisse s'exprimer avec le plus de force et d'authenticité. Ensuite, j'ai quitté ce pays. Je n'ai plus jamais revu Elvira, ni aucun des conteurs de la forêt du Darién. Mais il m'est resté beaucoup plus que de la nostalgie, la certitude que la littérature pouvait exister, malgré toute l'usure des conventions et des compromis, malgré l'incapacité dans laquelle les écrivains étaient de changer le monde. Quelque chose de grand et de fort qui les surpasse, parfois les anime et les transfigure, et leur rend l'harmonie avec la nature. Quelque chose de neuf et de très ancien à la fois, impalpable comme le vent, immatériel comme les nuages, infini comme la mer. Ce quelque chose qui vibre dans la poésie de Jalal Eddin Rumi, par exemple, ou dans l'architecture visionnaire d'Emmanuel Swedenborg. Le frisson que l'on éprouve à lire les plus beaux textes de l'humanité, tel le discours que le chef Stearns des Indiens Lumni adressé à la fin du XIXe siècle au président des États-Unis afin de lui faire don de la terre. Peut-être sommes-nous frères. Quelque chose de simple, de vrai, qui n'existe que dans le langage. Une allure, une ruse parfois, une danse grinçante ou bien de grandes plages de silence. La langue de la moquerie, les interjections, les malédictions et tout de suite après, la langue du paradis. C'est à elle, Elvira, que j'adresse cet éloge, à elle que je dédie ce prix que l'Académie de Suède me remet, à elle et à tous ces écrivains avec qui, ou parfois contre qui, j'ai vécu, aux Africains Wole Soyinka, Chinua Achebe, Amadou Kourouma, Mongo Betty, I Cry the Beloved Country d'Alan Paton, à Chaka de Thomas Mofolo, au très grand Mauricien Malcolm de Chazal, auteur entre autres de Judas, au romancier mauricien hindi Abhimanyu Unut pour L'Alpacina, Sueur de sang, à la romancière ourdou Haider Kuratulain pour l'épopée de Agka Darya, River of Fire, au réunionnais Daniel Waro, le chanteur de Maloya, L'Insoumis, à la poétesse Kanak Dewe Gorodé qui a défié le pouvoir colonial jusqu'en prison, à Abdurrahman Waberi, le révolté, à Juan Rulfo, à Pedro Paramo et aux nouvelles de Eliano Anyamas, aux photos simples et tragiques qu'il a faites dans la campagne mexicaine, à John Reed pour Insurgent Mexico, à Jean Meyer pour avoir porté la parole d'Aurelio Acevedo et des insurgés cristeros du Mexique central, à Luis González, auteur de Pueblo en Vilo, à John Nichols, qui a écrit sur l'âpre pays dans The Milagro Binfield War, à Henry Ross, mon voisin de la rue New York à Albuquerque, New Mexico, pour Call It Sleep, à Jean-Paul Sartre pour les larmes contenues dans sa pièce Mort sans sépulture, à Wilfred Owen, au poète mort sur les bords de la Marne en 1914, à Jérôme David Salinger, parce qu'il a réussi à nous faire entrer dans la peau d'un jeune garçon de 14 ans nommé Holden Caulfield. Aux écrivains des Premières Nations de l'Amérique, le Sioux Sherman Alexie, le Navajo Scott Momade pour The Names, à Rita Mestokocho, poétesse Innu de Mingan, province de Québec, qui fait parler les arbres et les animaux, à José María Arguedas, à Octavio Paz, à Miguel Ángel Asturias, aux poètes des oasis de Walata de Chinguetti, aux grands imaginatifs que furent Alphonse Allais et Raymond Queneau, à Georges Perec, pour quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour. Aux Antillais, Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, aux Haïtiens, René Depestre, à Schwarzbart pour le dernier des justes, à Jean Grosjean, aux poètes, aux conteurs, aux savants magnifiques, aux poètes mexicains Homero Arrigis, qui nous glisse dans la vie d'une tortue lyre et qui parle des fleuves orangés, des papillons monarques coulant dans les rues de son village à Contepec, à Vénus Kourirata, qui parle du Liban comme d'un amant tragique et invincible, à Khalil Gibran, à Rimbaud, à Émile Nelligan, à Régent du Charme pour la vie, à l'enfant inconnu que j'ai rencontré un jour au bord du fleuve Touira, dans la forêt du Darién, dans la nuit, assis sur le plancher d'une boutique, éclairé par la flamme d'une lampe à kérosène, il lit un livre et écrit, penché en avant, sans prêter attention à ce qui l'entoure, sans se soucier de l'inconfort, du bruit, de la promiscuité, de la vie âpre et violente qui se déroule à côté de lui. Cet enfant, assis en tailleur sur le plancher de cette boutique, au cœur de la forêt, en train de lire tout seul à la flamme de la lampe, n'est pas là par hasard. Il ressemble comme un frère à cet autre enfant dont je parle au commencement de ces pages, qui cessait à écrire avec un crayon de charpentier au verso des carnets de rationnement dans les sombres années de l'après-guerre. Il nous rappelle les deux grandes urgences de l'histoire humaine auxquelles nous sommes hélas loin d'avoir répondu, l'éradication de la faim et l'alphabétisation. Dans tout son pessimisme, la phrase de Stieg Dogerman sur le paradoxe fondamental de l'écrivain, insatisfait de ne pouvoir s'adresser à ceux qui ont faim, de nourriture ou de savoir, touche à la plus grande vérité. L'alphabétisation et la lutte contre la famine sont liées, étroitement interdépendantes. L'une ne saurait réussir sans l'autre. Toutes deux demandes exigent aujourd'hui notre action. Que dans ce troisième millénaire qui vient de commencer, sur notre terre commune, aucun enfant, quel que soit son sexe, sa langue, sa religion, ne soit abandonné à la faim ou à l'ignorance, laissé à l'écart du festin. Cet enfant porte en lui l'avenir de notre race humaine, à lui la royauté, comme l'a écrit il y a très longtemps le grec Héraclite. Je vous remercie.